Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, inshallah. Donc, on est à l'épisode 11. Donc, comme j'avais mis sur Instagram, sur la page Goûte à la réussite, j'avais proposé en fait deux sujets, lesquels vous voulez que je traite en premier. Donc en premier, le sondage avait répondu la majorité pour le sujet de l'épisode 10. Donc comment... Enfin, l'épisode 10 ou l'épisode 9, je sais plus. Oui, c'était l'épisode 10, tes trois actes qui vont te permettre de t'élever dans ta salate. Donc là, on va traiter... Le thème, le sujet qui est comment ne pas faire sortir une prière de son temps, qui est un sujet très 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 important et malgré tout beaucoup trop délaissé. Subhanallah. C'est un sujet, donc je vais y aller, on va dire, avec des pincettes parce que j'ai pas envie de brusquer certaines personnes ou quoi. Mais il faut savoir que la majorité des savants sont entre guillemets catégoriques à ce sujet-là, qu'une prière qui est sortie de son temps n'est pas valide. Maintenant, certes, il y a des conditions, il y a des exceptions à la règle, mais c'est que dans certains cas. Donc, pour ce qui est jurisprudence, comme à mon habitude, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas de mon niveau, ce n'est pas de mon domaine. Donc pour les règles vraiment bien précises de la jurisprudence, je vous renverrai à rechercher ce savoir par vos propres moyens. Donc soit auprès d'un muallim, d'un professeur reconnu pour ça, ou bien dans des livres de jurisprudence. Bien sûr, le meilleur choix, c'est de faire cela avec un professeur. Enfin bref, on va ici parler, on va dire, déjà de ce que Allah a dit dans le Coran, quelques hadiths du prophète Mohammed pour te montrer un peu l'importance de la prière à effectuer en fait en son temps, et quelques conseils au quotidien. Je vais te donner quelques conseils au quotidien à mettre en pratique pour éviter ce péché, parce que c'est un péché de faire sortir une prière de son temps. Donc, quels sont, on va dire, les trois grands points pour respecter, pour du moins essayer d'accomplir sa prière dans son temps prescrit. Donc, la première des choses, je pense vraiment, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqillah. Parce que la crainte d'Allah, ça va te rappeler en fait que le fait de délaisser, de négliger ta prière, c'est un grand péché. Il y en a même qui te... Il y a des savants même qui disent que c'est encore plus grave que le péché de la fornication, de l'adultère, enfin, tous ces grands péchés qui sont connus, répandus malheureusement, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est pour te montrer à quel point il y a l'importance d'effectuer sa prière en son temps. C'est pour te montrer que voilà, il y a des savants qui mettent ce péché-là au-dessus des péchés de la fornication. En gros, c'est plus grave. Subhanallah. Pour te montrer à quel point c'est très, très, très important. Donc, pour moi, déjà, la première des choses qui va te permettre d'éviter cela, c'est de nourrir ta crainte que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire cela? Déjà, en connaissant les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu vers notre prophète Mohammed alayhi salatu salam sur ce point-là. Donc déjà, il y en a un, c'est sourate 4, verset 103, quand il dit, Allah exalté soit-il, dit, la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps bien déterminés. Donc là, il le souligne bien. Il ne dit pas juste la salate demeure pour les croyants une prescription. Il dit bien à des temps bien déterminés. Et beaucoup malheureusement prennent juste une partie de ce verset en délaissant l'autre partie, comme beaucoup d'autres sujets. Malheureusement, dans notre dîne, beaucoup de personnes prennent ce qui les arrange ou voilà, ce qui leur convient et délaissent l'autre partie. Et la crainte d'Allah va te permettre en fait de comment dire, d'accomplir totalement, de respecter totalement la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a prescrit la salat, mais pas seulement. Il nous l'a prescrit à des temps bien déterminés. Donc certes, on a des temps qui sont éparpillés voilà, dans la journée en cinq temps essentiellement, c'est-à-dire la salat al-fajr, la salat al-dohr, l'asr, maghrib et l'aïcha. Donc, celle du avant, enfin, du lever à l'aube, du lever du soleil, celle au moment où le soleil est au plus haut, au zénith, et la prière de l'asr, de l'après-midi, maghrib au coucher du soleil, et la isha, la prière de la nuit. Maintenant, dans ces temps-là, on a ce qu'on appelle des temps. Moi, voilà, je dis pas en fait des. Aujourd'hui, on parle d'heures de prière parce que voilà, on a eu la révolution, on a eu l'invention de la montre, mais il y a une certaine époque, on n'avait pas ça. Donc on se fixait à des temps par rapport au soleil. Et donc, subhanallah, par la rahma d'Allah, qui est immense, il nous a permis d'effectuer ces prières-là. Il nous a permis, on va dire, pour certaines prières, d'avoir un certain temps limité. Par exemple, pour Salat al-Dohr, dans la jurisprudence, vous avez le droit. Donc là, c'est selon l'école malékite. Donc voilà, ça, c'est un autre sujet aussi dans l'islam. Il faut savoir que on a plusieurs écoles. Toutes sont bonnes, hein. Mais certaines personnes vont plus comment dire vont plus suivre certaines écoles que d'autres. Donc voilà, ça c'est autre chose. Après je rentrerai pas non plus dans les détails. À vous d'aller chercher cette science. Mais en tout cas, c'est très important de suivre une école dans votre apprentissage parce que ça va vous permettre d'avoir un fil conducteur en fait. Ça va vous permettre d'avoir une certaine logique. Certes, les écoles, ils ont des divergences sur certains sujets et sur d'autres sujets, ils se joignent, voilà, ils sont, on va dire, en accord. Mais la divergence, ça veut pas dire que certaines écoles ont raison et d'autres non. Pas du tout. Ça veut seulement dire que, subhanallah, notre dîne a tellement est tellement riche en savoir que, bah, que forcément, il est arrivé des moments où on peut avoir, il peut avoir des sujets à divergence. Et Allahu a'lam, Allah sait mieux. Donc pour revenir à notre sujet du jour, par la rahma, la miséricorde d'Allah, on a des temps. Ça veut dire que par exemple, quand il y a l'adhan, l'appel à la prière, donc là, ça marque le début d'un temps. Donc, soit on l'effectue tout de suite, si on le peut, et c'est le mieux, c'est ce qui est recommandé, accourir à la salat. Quand on entend l'appel à la prière dans les paroles, on entend bien accourir à la salat, ça veut dire, voilà, c'est vraiment mieux pour nous de l'accomplir tout de suite parce que qui sait si dans 10 minutes on sera encore de ce monde, subhanallah. Donc c'est vraiment ce qui est conseillé vraiment de voilà, d'accomplir la salat le plus tôt possible. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous avez des temps. Par exemple, pour Salat al-Dhuhr, subhanallah, on a un large temps parce que de Salat al-Dhuhr jusqu'à Salat al-Asr, on a la possibilité d'accomplir notre prière Salat al-Dhuhr. Et si, voilà, jusqu'à Salat al-Asr. Maintenant, si on n'a pas compris notre prière et que Salat al-Asr est rentré, alors là, on a fait sortir notre prière du dhuhr et c'est un péché. Mais on a quand même un laps de temps. Mais c'est pas le même temps pour toutes les salates. Par exemple, Salat al-Maghrib, c'est très 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 court pour le coucher du soleil. Il y a des savants qui te disent vraiment, c'est 10-15 minutes, quoi. Juste le temps de faire tes ablutions et d'accomplir ta salat. Donc voilà, il y a plusieurs temps à respecter. Donc ça, pareil, je te renvoie à la jurisprudence pour connaître vraiment tous ces points-là de chaque salat, des temps de chaque salat. Et aussi connaître les conditions. Parce qu'il y a certaines conditions à respecter dans certains cas. Par exemple, si voilà, si vraiment tu as une excuse valable, il y a certains, dans certains cas, il t'est permis de, par exemple, de regrouper la salat le Maghrib avec salat l'Aïcha. Mais c'est vraiment dans certains cas avec une excuse, une très très bonne excuse, quoi. Donc ça, tout ça, c'est les règles de jurisprudence qui vont te l'apprendre, la science du fiqh. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est pour te montrer quand même la miséricorde d'Allah. Il ne nous a pas dit, voilà, certes, il y a des temps déterminés, des horaires, mais on a quand même, on va dire, un laps de temps. Après, qu'est-ce que je voulais? Oui. Donc, moi, je vais juste là. Je voulais, oui, te lire quelques hadiths. Alors, avant de lire quelques hadiths, je vais te relire un autre verset du Coran. Donc, chapitre 2, verset 238. Allah, le Très-Haut, dit: observez avec assiduité les prières et la prière médiane. Donc vraiment, là, on te parle d'assiduité. L'assiduité, c'est pas seulement dans ton accomplissement à la salat. Par exemple, je fais ma prière et même si c'est pas à l'heure exacte, c'est pas grave. Je suis assidue au moins à ma prière. Non, l'assiduité, c'est également dans les temps à respecter, vraiment être assidu à tout ça, et c'est ce qui fera que tu feras ta prière correctement, inshallah. Donc, premier hadith, pas toujours du Riyad as-Salihin, les jardins des vertueux de l'imam An-Nawawi. Hadith 10, 74. Ibn Mas'ud a dit: j'ai demandé au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus méritoire? Il dit la prière à 16 heures. Hadith 10-78. Jabr rapporte, j'ai entendu le messager de Dieu, alayhi salatu salam, dire, entre l'homme d'une part et l'idolâtrie et la négation de l'autre, et la renonciation à la pratique de la prière, rapporté par Muslim. Donc là, on te parle de l'abandon, on va dire, de la salate complètement, la renonciation. Mais il y a certains savants qui te disent qu'en faisant sortir une prière de son temps, ça revient au même. C'est comme si tu avais abandonné ta salate. Wallahu a'lam. Mais ici, pourquoi j'ai retenu ce hadith? Parce que c'est le commentaire qui a attiré mon attention. Donc je te le lis. Cette affirmation péremptoire devrait faire trembler plus d'un soi-disant musulman. Les musulmans aujourd'hui se flattent d'être près d'un milliard, mais c'est en réalité une masse amorphe et inconsistante qui est soumise à toutes les hégémonies et à toute exploitation. La raison majeure en est que ceux qui pratiquent la prière d'une façon sincère et assidue ne sont qu'une très faible minorité souvent mal tolérée du reste de la population qui en fait souvent un sujet de moquerie et de distraction. Mais pour se prétendre musulman, il ne suffit pas de s'appeler Mohammed ou Ali, il faut avant tout se conformer loyalement et entièrement aux cinq obligations de base de l'islam, dont la plus importante est de loin la prière. On peut avoir une excuse valable pour ne pas jeûner. On peut ne pas avoir les moyens de faire l'aumône ou d'entreprendre le pèlerinage à la Mecque, mais ni la maladie, ni la participation au combat, ni rien d'autre ne peuvent dispenser de la prière qu'on doit pratiquer même sur son lit de mort. Subhanallah. Allahu Akbar. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais l'imam an-Nawawi, par son commentaire réellement, il te montre, il t'annonce la couleur clairement. En gros, il te dit qu'en fait, tu n'as pas d'excuses. Et c'est la vérité. Subhanallah, Allah, il a fait preuve d'une grande rahma envers nous pour beaucoup, beaucoup d'actes d'adoration. Mais pour la salat, si tu regardes bien, si tu observes bien la science du fiqh, eh ben, c'est quand même très, comment dire, la salat, c'est cadré. En fait, c'est pas comme toi tu veux, c'est pas, voilà. Et subhanallah, même quand tu es malade, Allah t'a permis d'accomplir ta salat. C'est en gros pour te montrer que on joue pas avec ça en fait. Même si tu es malade, eh ben je te faciliterai certes, mais il ne faut pas la négliger, même dans ce cas-là. Et même sur le lit de mort, subhanallah, même sur ton lit de mort, tu dois encore accomplir ta salat avec les moyens qui te restent, subhanallah. Parce que la salat, c'est comme je l'ai dit, comme je le dis toujours, ce câble, cette connexion avec Allah. Et si tu ne l'as plus, mais t'es perdu. T'es perdu. Sans Allah, t'as rien. Sans Allah, tu n'es plus, tu n'es rien. Et là, il te dit clairement que voilà, que la salat, c'est, comment dire, c'est une prescription qu'Allah nous a faite et on doit en fait la respecter loyalement et entièrement. Et entièrement, ça rentre dans le fait de respecter également ces temps bien déterminés. Hadith 10-81, selon Abu Huwaya, Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a dit: le jour de la résurrection, ce dont on doit rendre compte en premier lieu est la prière. Si elle s'avère valable, il a mérité le gain et le succès. Sinon, c'est la déception et la perte. S'il en a négligé quelque chose, le Seigneur glorifié et honoré dit: voyez si mon esclave a à son compte quelques prières surérogatoires de quoi réparer ses manquements. Il en sera de même de toutes les autres obligations rapportées par Al-Tirmidhi. Donc voilà, ce hadith te montre que le jour de la résurrection, la chose sur laquelle on sera interrogé en premier lieu, en premier temps, c'est la salat. Si elle est bonne, le prophète Mohammed alayhi salat salam te dit: tous tes actes suivront. Mais si elle n'est pas bonne, alors ça va être compliqué en fait. Tu pars avec un gros, gros, gros handicap. Et Allah sait mieux. Allah, Rahman, Rahim, de toute façon, on peut accomplir tous les actes méritoires et nobles possibles. Comme je le dis souvent, ça n'aura jamais, jamais l'équivalent des bienfaits qu'Allah nous a comblés. Par laquelle on rentrera au paradis, c'est par la rahma, la miséricorde d'Allah. Et pas seulement par nos petits actes, nos actes minimes qu'on peut faire. Mais c'est très important parce que minime, certes, mais c'est quand même par cela qu'Allah nous élève et c'est par cela qu'on garde notre connexion avec Allah qui nous permet de ne pas être perdus, d'être guidés aussi bien ici-bas et que aussi bien pour l'au-delà, subhanallah. Donc je vais maintenant te parler concrètement de quelques conseils du quotidien pour éviter de faire sortir une prière de son temps. Alors tout d'abord, je voulais te parler d'audace. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup dire, beaucoup trop souvent, des gens qui travaillent qui me disent: oui, mais moi je peux pas prier, je travaille. Alors à ces gens-là, déjà, je leur réponds: Allah seul te suffit. Hasballah wa ni'mal wakil. Allah seul te suffit. Si vraiment tu as la certitude de cette parole-là, vraiment, si tu mets vraiment dans ton cœur, tu l'ancres dans ton cœur réellement qu'Allah seul te suffit, wallah, wallah, que tu vas faire preuve d'audace. Je vais te parler un petit peu de mon expérience. La première fois que j'ai postulé pour travailler, et subhanallah, j'ai envoyé voilà tout ce qui est CV, diplôme, etc. On m'a appelé et on m'a dit que c'était bon, que j'avais décroché un entretien. Et je me rappelle, j'avais à peine 18 ans, à peine, parce que je voulais travailler voilà pendant les grandes vacances scolaires. C'était après le bac, je m'en rappelle. Et donc, je me suis posé la question, mais comment je vais faire? Tout d'abord, parce que je portais le voile. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je vais aller à l'entretien avec mon hijab? Ça ne va pas passer, comment je vais faire? Subhanallah. Et là, je me suis dit, non. Il est hors de question que je retire mon hijab pour un travail. Il est hors de question que je perde confiance en Allah. Allah seul me suffit. Et wallah, que je suis partie à cet entretien avec mon hijab. Et wallah, que j'ai eu ce travail. Et bah, je t'assure que lors de l'entretien, le directeur, c'était un pur français de pure souche. Et je t'assure que tellement j'étais choquée, j'étais surprise que du début jusqu'à la fin de l'entretien, il ne m'a pas posé la question de bah, est-ce que vous allez garder votre voile? Est-ce que. Enfin, plein de questions de ce type-là. C'est moi, à la fin de l'entretien, pour être sûre, en fait, qui lui ai posé la question, qui lui ai dit, monsieur. Est-ce que ça vous dérange pas le voile? En fait, je me suis dit, il me voit ou il me voit pas en fait? Je me suis dit, peut-être il a un voile devant ses yeux, il me voit pas réellement. Subhanallah. Et il m'a dit, non. Il m'a dit, ben écoutez, alors pour te mettre, voilà, c'était un travail en tant que animatrice des centres de loisirs. Et je peux te dire que à cette époque-là, je sais qu'il y en a maintenant qu'ils acceptent, mais en général, c'est des centres de loisirs privés. Mais là, c'était des centres de loisirs de la ville et de la grande mairie de Paris. Donc, en vrai, de vrai, dans les règles, ils n'acceptent pas du tout. Mais là, avec ce directeur-là, subhanallah, c'est passé. Et clairement, on va pour dire ce qui est, il s'en fichait de ses supérieurs, de ce qu'ils allaient dire ou pas. Moi, il m'a dit, écoutez, tant que vous faites votre travail, tant que vous n'allez pas imposer le voile aux enfants, c'est bon pour moi. Donc, voilà. Et subhanallah, je me rappelle que j'avais même eu la facilité, la possibilité d'accomplir ma salat parce que dans cette école-là, il y avait même des ASEM qui étaient musulmanes et qui m'ont facilité cela. Enfin bref, pour te dire vraiment, place ta confiance en Allah, faire confiance en Allah, c'est vraiment lui prouver que lui seul te suffit et surtout lui prouver que c'est lui le plus grand. C'est lui le tout-puissant. C'est lui. Tout est entre ses mains. Et pour te parler du concret, pour te parler d'à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, je travaille à mon compte. Je travaille à mon compte. Donc, je travaille en général de la maison, mais il m'arrive aussi d'être chez des clients. Parce que, pour tout te dire, je suis architecte d'intérieur et il y a des fois où je suis sur chantier. Donc, je suis chez les clients, concrètement, des journées entières. Donc, à ce moment-là, comment je fais? À ce moment-là, eh ben, j'ose. À ce moment-là, je demande tout simplement au client si ça le dérange que je puisse accomplir ou pas ma prière chez lui. Et jusqu'à ce jour, alhamdoulillah, il n'y a pas un client qui a refusé. Et je peux te dire que j'ai fait face à toutes sortes de clients, que ce soit des clients croyants, chrétiens, musulmans, ou non-croyants, athées, ou des clients, comment dire, polythéistes. Des clients des clients qui comment dire qui voilà qui ont une croyance voilà, de polythéiste on va dire ou de divinité qui pour nous qui n'existent pas mais pour te dire que voilà c'est vraiment j'ai fait face à des clients de toutes sortes de cultures de toutes sortes de croyances et je n'ai jamais eu un refus. Alors, par cela, moi, je pense réellement que c'est parce que j'ai placé ma confiance en Allah et que c'est grâce à Allah tout ça. Mais il y a aussi une part de toi. Il faut savoir que ton comportement, l'image que tu vas véhiculer, va aussi beaucoup t'aider à faire preuve d'audace. C'est comme par exemple l'enfant qui a entre guillemets un comportement exemplaire, qui est très gentil, qui est on va dire trop mignon et qui vient te demander quelque chose dont à la base toi tu n'es pas du tout pour cette chose-là, mais tellement il est trop mignon, et eh ben tu peux pas lui refuser. Et eh ben subhanallah, c'est exactement ça. Et moi je le dis souvent à ces personnes qui me disent je travaille, moi je peux pas, voilà et tout ça. Mais est-ce que tu as demandé même, est-ce que tu as négocié même avec ton directeur, ton employeur? Alors ils vont me dire non mais c'est pas possible, moi mon employeur jamais de la vie, etc. etc. Mais subhanallah, plein de fois, moi aussi j'ai eu cette crainte plein de fois avec des clients, quand surtout des clients, comme je te l'ai dit, des fois avec des cultures polythéistes et tout ça, je me suis dit mais ils vont me rembarrer. Mais je t'assure que par l'image que je véhiculais, eh ben, ils me disaient oui et avec un grand sourire. Et presque même, ça leur faisait plaisir de me rendre service. Alors des fois, on se bloque tout seul, vraiment. On se dit non, mon directeur ou ma directrice, ça va jamais accepter. Mais le premier travail à faire, vraiment, déjà, c'est la tawakkul, c'est faire confiance totale en Allah. Et aussi, un travail sur toi-même. Si tu es quelqu'un vraiment, entre guillemets, d'irréprochable, cette personne-là, elle aura trop du mal à te refuser, subhanallah, vraiment. Et comment dire? Donc vraiment, voilà, faire preuve d'audace au quotidien, ça c'est la première chose. Certes, ça te demande un travail, mais il faut oser, il faut le faire. Parce que subhanallah, si tu le fais pas, imagine demain, subhanallah, imagine, voilà, tu meurs, et le jour du jugement, Allah te dit, pourquoi t'as pas accompli ta salat au travail? Tu lui dis, oui, mais moi, c'était impossible, mon directeur ou ma directrice, elle n'était pas musulmane, elle n'aurait pas compris, si, ça, ça, ça. Et il te dit, ah bon? Es-tu sûr? Il appelle cette même personne à témoigner. Et si cette personne-là, en ce jour-là, témoigne que il n'aurait pas refusé, juste parce que tu as eu peur d'oser, parce que tu n'avais pas confiance en Allah, parce que tu n'avais pas mis cette suffisance en Allah en toi. À méditer, réfléchis bien. Enfin, je vais te donner aussi quelques conseils du quotidien. Donc pour ceux qui travaillent, on a la possibilité, on a tous une pause. On a tous une pause normalement quand on travaille, la pause déjeuner. Ensuite, il y en a même qui ont des petites pauses de 10-15 minutes au courant de la journée, qui peuvent prendre à leur convenance ou qui sont imposées une en matinée, une en après-midi. Peu importe. Et donc, moi, le conseil que je te donne, c'est de télécharger une application, les applications qui te permettent en fait de trouver la mosquée du coin. Donc comme ça, en fait, ça peut te permettre, à ces heures de pause, d'aller faire ta prière rapidement à la mosquée. Celles qui ont une voiture. Il y en a, je sais, il y a beaucoup de textes de savants, je veux dire, qui ont dit que ce n'était pas permis. Mais vraiment, si vraiment vous êtes dans la contrainte, moi je conseille de quand même effectuer sa salat dans sa voiture et par la suite peut-être la rattraper. Mais au moins avoir cette niya, avoir cette intention de ne pas vouloir faire sortir la prière de son temps. Wallahu a'lam. Ensuite, pour celles et ceux qui, alhamdoulilah, ils ont un emploi du temps qu'ils peuvent gérer ou qui sont à la maison tout simplement, je vous préconise grandement de sortir le matin pour tout ce qui est rendez-vous ou autre, vos courses ou peu importe, faites tout le matin. Dès que vous avez fait votre prière du Fajr, vous vous reposez un petit peu, voilà, vous prenez le temps un petit peu, déjeuner, etc. Peu importe, ou amenez les enfants à l'école. Et après, accomplissez vos tâches le matin. Maintenant, si vraiment vous avez un rendez-vous ou autre dans l'après-midi, alors si vous sortez l'après-midi, soyez sûr de pouvoir effectuer votre prière à temps. Soit d'être sûr de pouvoir revenir à temps, ou sinon, être sûr de pouvoir effectuer la prière dans le lieu où vous allez aller. Les étudiants, c'est pareil. Cherchez la mosquée du coin. On a tous une pause déjeuner. Ou même des fois, il y en a qui rentrent à la maison pour manger. Et bien, à ce moment-là, priez. Et pour la salat du Asr, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser si ce n'est pas possible. Alors, je sais que pour les étudiants, il y a beaucoup de savants qui disent que Allah a fait preuve de rahma envers les jeunes. Et je pense sincèrement que c'est le cas, Allah, Rahman Ar-Rahim, et Allahu A'lam. Mais en tout cas, le fait juste de faire des efforts comme ça, vraiment d'avoir ce souci en soi, de vouloir respecter cette obligation qui est de ne pas faire sortir une prière de son temps, c'est déjà un grand pas. C'est déjà une preuve d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cela, Allah fera preuve de rahma envers vous. Mais si tu sors une prière de son temps sans t'en soucier et que tu t'en fous, on va dire, que tu t'en... peu importe, là par contre je pense qu'on rentre dans un énorme, dans un grand péché. Et voilà, et vraiment l'organisation, on fait que de le répéter, mais c'est vraiment la chose phare à faire. Organisez votre journée en fonction de vos prières et pas l'inverse. Organisez vraiment, mettez vraiment votre prière au centre de votre vie, au centre de votre quotidien. J'appelle pour prendre un rendez-vous médical ou quoi, et bah je prends mon rendez-vous en fonction de ma salat. J'ai des clients, je suis voilà, entrepreneuse, entrepreneur, je organise mon emploi du temps en fonction de ma salat. Et voilà, et tout ça comme ça, toute ta vie comme ça, tu pars en voyage, essaye de faire un maximum pour au moins effectuer tes prières avant de partir. Et après, le reste en faisant les prières du voyageur. Mais vraiment, tout au long de votre vie, organisez-vous à faire de votre prière le cœur, le noyau, le centre de votre vie, si vous voulez récolter le succès, réellement. Alors, je pense avoir fini pour cet épisode. Je pense, ouais, que j'ai tout dit, alhamdoulilah. Enfin, tout dit, non. Mais au moins l'essentiel, j'espère que ça t'apportera quand même. Ces petits conseils, ces petites pistes de cheminement, inshallah, qu'Allah te facilite, qu'Allah fasse qu'on ne sorte pas une prière de son temps, qu'Allah nous en préserve grandement, qu'Allah nous permet d'être assidus et loyal envers lui et envers ses obligations. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.